Madame, Monsieur, bonjour. Madame Mabillon Bonfils et Monsieur Laurent Saadoun, vous êtes enseignant et surtout politologue. Nous vous écoutons immédiatement.
Bonjour, effectivement, Laurent Saadoun et moi-même sommes politologues et c'est donc de ce lieu que nous allons parler. Pourtant, il nous semble que la psychanalyse, en introduisant le point de vue de l'inconscient au cœur des phénomènes humains, a modifié radicalement le savoir sur l'homme. Bachelard nous a appris que le savoir se construit contre les autres et contre soi-même. Il semble aussi que le savoir se construise avec les autres, avec soi-même et avec l'autre qui parle par sa bouche. Les sciences sociales, vous le savez peut-être, se construisent encore aujourd'hui par l'hyperspécialisation disciplinaire et par la division des tâches. Nous travaillons, nous militons et nous travaillons pour un regard pluridisciplinaire sur les objets des sciences sociales. Cette pluralité foisonnante de regards, nous allons essayer de la construire aujourd'hui pour proposer une approche un peu différente du social. Il ne s'agit certes pas d'appliquer la psychanalyse fondamentalement singulière au plan socioculturel, mais bien saisir comment la psychanalyse, en prenant en considération la dimension des processus inconscients en tant qu'ils œuvrent dans le lien social, rencontre la question du lien social. C'est alors cette prise en compte de l'envers du social sans lequel le réel ne pourrait être construit que nous voulons aujourd'hui essayer d'aborder avec vous. La question de l'école en tant que lieu de socialisation, mais aussi en tant que lieu d'institution du social, voire en tant qu'appareil idéologique de l'État, puisque l'État joue sa pérennité dans la constitution du social, est au cœur du lien social. Vous savez peut-être que pour Freud, il y a trois professions impossibles: psychanalyser, gouverner ou éduquer les hommes. Car, dit-il, on peut être sûr d'avance, de ne pas produire l'effet attendu. Quelles sont alors ces empreintes indélébiles que nous lègue l'école et qui ne seront pas sans effet sur la construction de la citoyenneté? Quel espace de pouvoir met l'école en jeu? En d'autres termes, comment désir de pouvoir et pouvoir du désir s'articulent pour construire une clé de lecture de l'institution scolaire? Voilà à quoi nous allons nous attacher. Et c'est Laurent Saadoun qui va commencer la première partie de cet exposé.
Merci. Il s'agit donc d'envisager l'école comme espace symbolique de pouvoir, c'est-à-dire que l'école est, dès son origine, une institution sociale qui travaille à la fois le corps et l'esprit. Il s'agit précisément de mettre en ordre les corps et les esprits, articulant jeu du pouvoir et jeu du désir. L'école est en effet, en tant qu'institution du pouvoir, le lieu de la régulation des conduites et de la normalisation des pratiques. Le travail qui a été fait il y a une trentaine d'années par le philosophe Michel Foucault le démontre amplement. C'est une institution qui fixe un certain type de relation au savoir et donc aussi au pouvoir, qui met en œuvre le rapport savoir-pouvoir, qui l'institue au travers d'un certain nombre de règles disciplinaires qui s'appliquent donc autant à l'examen des corps qui lui sont soumis qu'aux esprits en formation. Foucault considère que le pouvoir est nulle part parce qu'il est partout. C'est-à-dire que le pouvoir traverse les corps, il n'est pas considéré comme étant une propriété. Il est essentiellement relationnel et stratégique. Et c'est à l'examen des formes de maillage du pouvoir que nous avons tenté de saisir l'école comme lieu de pouvoir, comme lieu de désir aussi, ou de non-désir, dans notre ouvrage « Sociologie politique de l'école ». Le pouvoir traverse les sujets, il fait aussi circuler les individus, les uns par rapport aux autres, il fonctionne en chaîne. il instaure des relations asymétriques, mobiles, au travers des technologies propres au temps de l'école et à l'espace de l'école, c'est-à-dire au lieu de l'éducation. La règle, une des règles qui fonctionne autant sur le corps que sur l'esprit en termes de relations de pouvoir, c'est celle qui consiste à tenter de connaître toujours plus précisément les individus qui sont soumis à l'école, c'est-à-dire autant les élèves que les enseignants. Il faut classer, il faut trier. Les individus sont des objets à connaître. Et d'ailleurs, le système de la notation, qui renvoie à une forme particulière de mise en discipline du savoir, est le fond commun de l'école, puisque la note concerne autant l'élève que l'enseignant. Il s'agit aussi, dans l'espace scolaire, de construire une discipline de vie, un rapport particulier au temps, et il s'agit de canaliser les énergies utiles. Le travail analytique de Foucault consiste justement à décrypter les stratégies de pouvoir des acteurs, mais aussi les formes prises par l'organisation des contrôles en termes de surveillance et bien sûr aussi en termes de punition, surveillance et punition étant des formes de régulation à la fois positives et négatives. Et dans notre ouvrage, nous avons notamment traité d'un point de vue à la fois théorique et empirique la question du conseil de classe où se joue au sein même de l'institution la permanence d'un certain regard que l'institution porte sur elle-même, alors même que l'école est en crise, que les valeurs de l'école sont contredites souvent par l'économie marchande et sont confrontées à des demandes multiples, eh bien, le conseil de classe fonctionne comme un lieu de permanence, permanence relationnelle, où s'inscrivent ces rapports de pouvoir, notamment au travers des jeux de regard, des positions statutaires des uns et des autres. Béatrice va en résumer les principaux aspects.
Juste en quelques mots pour illustrer ce cas du conseil de classe. Effectivement, dans un conseil de classe présenté parfois comme une parodie de démocratie ou au moins un tribunal de sanction des résultats, se joue aussi autre chose, c'est-à-dire à la fois des rapports de pouvoir, de hiérarchie, de position de matière, de hiérarchie entre l'administration et les élèves, les représentants de parents, les acteurs du système scolaire, donc position hiérarchique, rôle, faisceau des attentes, gestion des flux d'élèves, investissent autant le conseil de classe que les résultats même des élèves. À savoir que dans cette école que Laurent précisait en crise, en tout cas en malaise, moi je préfère dire malaise de l'institution scolaire, face à l'hétérogénéité croissante de ses publics et sa difficulté à gérer cette hétérogénéité croissante des publics, le conseil de classe peut aussi être considéré, et c'est ce qu'il abordait, comme un rituel de maintenance d'une réalité sociale. Ce fonctionnement rituel, ce que je voulais appeler parodie de démocratie, est une des instances maîtres de notre système scolaire qui influe singulièrement sur les destins individuels et sur les trajectoires scolaires. Donc, simple illustration, que le pouvoir est nulle part et partout à la fois, parce qu'il n'est pas simplement aux mains d'un proviseur, par exemple, ou aux mains d'un professeur principal, mais il est dans cette gestion difficile et dans cette présentation de soi que l'on est capable ou pas de mettre en œuvre lors d'un conseil de classe, dans cette prise de la parole, dans cette gestion des temps de parole, dans ces relations de connivence, dans cette articulation entre conflits, négociations partielles, entre présentation de soi qui se joue lors d'un conseil de classe.
Il s'agit donc d'analyser l'école comme un lieu où le pouvoir est territorialisé et la gestion de ces territoires en concurrence, Foucault toujours les a saisis au moyen du panoptique, le panoptisme, c'est-à-dire au moyen de l'observation, de l'organisation, de la manière dont les individus circulent, de la manière aussi dont ces circulations sont surveillées. Et l'école est donc bien peut-être ce lieu clos et disciplinaire comme le sont aussi l'atelier, la prison et au sommet de la pyramide, l'hôpital psychiatrique, lieu clos et disciplinaire, avec notamment en son centre un espace vide, mais pas vide de sens, puisqu'il construit des interactions utiles à l'école, celui de la cour de récréation, qui est organisée architecturalement pour soumettre notamment les élèves au regard institutionnel et à la surveillance. Ces circulations utiles, ces territoires à constituer, sont aussi ceux que l'école distribue dans sa capacité à construire un temps scolaire qui est aussi un temps social, mais qui n'est pas le temps social de l'extérieur de l'école, même s'il familiarise aussi avec le temps extérieur à l'école, notamment le temps qui va consister à entrer dans la vie professionnelle. Je pense notamment au planning, à tous les systèmes de contrôle des présences qui forment l'appareil technologique de la régulation scolaire des flux et aussi de la présence des corps dans le lieu. Et je vous citerai simplement, là encore Foucault, mais dans le texte, un petit extrait de Surveiller et punir. Il explique « Il s'agit d'établir les présences et les absences, de savoir où et comment retrouver les individus, d'instaurer les communications utiles, d'interrompre les autres, de pouvoir à chaque instant surveiller la conduite de chacun, l'apprécier, la sanctionner, mesurer les qualités ou les mérites. Procédure donc pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser. » Parmi les stratégies de mise en discipline, il y a évidemment la logique de la mise en rang. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les notes, sur les systèmes de classement, mais ça renvoie aussi à la distribution dans l'espace, notamment de la classe, des élèves qui sont là encore soumis au regard panoptique. Et d'une certaine manière, même si de ce côté-là, il y a autre chose, une autre vie, et nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais enfin, il y a quand même un peu la reproduction. Vous voyez que nous sommes d'un côté, de l'autre, il y a le public. Vous avez certes une relative mobilité, mais enfin, si c'était un cours, elle serait probablement plus réduite. Et puis, votre position ici est forcément face au regard de ceux qui parlent ou de celui qui parle. Vous êtes donc déjà sous la surveillance du regard de celui qui parle et sous la surveillance de la parole de celui qui s'exprime. Mais en outre, la mise en scène de la relation de pouvoir est telle architecturalement que vous êtes aussi étiqueté, aussi regardé, potentiellement surveillé par l'endroit que vous ne pouvez pas voir et qui vous rend beaucoup plus fragile de ce point de vue-là, c'est-à-dire par vos dos. Il y a donc un double circuit qui est établi. Il y a le circuit d'ici à là-bas, et puis il y a aussi tout le regard qu'on peut aussi qualifier en sociologie de contrôle social qui s'applique à une partie de votre corps que, de fait, vous avez beaucoup de mal à saisir, mais qui, puisqu'il est soumis au regard, vous saisit pour une part dans la relation. Alors cette mise en rang, évidemment, elle passe par la discipline, elle passe par les systèmes de classement, elle passe, je l'ai dit, par l'emploi du temps, et elle passe spécialement dans l'école par ce découpage du savoir scandé d'obligation, découpage du savoir en discipline scolaire, souvent d'ailleurs très arbitraire. Nous avons travaillé sur notre ouvrage sur le rapport entre savoir savant et savoir enseigné, dans un ouvrage de didactique. Et c'est vrai qu'il y a une partie d'arbitraire dans la sélection des contenus qui tient là aussi de la nécessité de construire une relation à la fois apaisée, si c'est possible, et en tout cas un territoire acceptable géré par l'école et par l'institution, le territoire du savoir acceptable et légitime dans l'école. Dans cette position du corps, il faut aussi constater que dans l'espace de la classe, il y a en fait plusieurs croisements, plusieurs distributions de positions qui sont elles aussi illustratives des rapports de pouvoir, mais aussi illustratives de cette difficulté, de cette négation de la capacité à être dans le désir, c'est-à-dire peut-être à être dans l'intime. Nous sommes dans un espace collectif qui a pour mission de socialiser. Et alors, il faut aussi considérer à présent un peu moins, puisque je suis attaché à ma chaise devant ce micro, mais il faut considérer que ce qui distingue l'enseignant de l'élève, corporellement, physiquement, c'est que, a priori, l'enseignant peut être le plus souvent dans la position verticale et qu'il est mobile, alors même que l'élève est plutôt dans une position horizontale et maintenu immobile, ce qui suggère pour l'élève la soumission et pour l'enseignant probablement la référence au phallus et donc à la loi. Position du corps aussi qui passe par l'exercice, par les exercices et notamment les exercices du corps. Nous avons, nous, dans notre ouvrage, interrogé la place du sport dans la socialisation du corps et des esprits, reprenant en partie le travail qui a été fait par un sociologue du sport et aussi du corps, Vigarello, dans son ouvrage Le corps redressé. Alors, corps redressé parce que l'école est un espace de dressage des corps et des esprits, de refoulement aussi, nous allons y venir, de non-désir et de mise à distance des corps. Les corps sont présents, mais en même temps qu'ils sont présents, ils sont aussi absents, puisque notamment ils sont, quand un élève se lève ou chahute, c'est justement la manifestation du corps qui ne confirme pas la règle du lieu et du moment. Il s'agit bien d'oublier les corps pour mieux pouvoir les travailler d'une manière régulière. Il s'agit donc pour nous, dans ce travail, de questionner le comment du pouvoir de l'école, reprenant la fameuse question de Foucault du comment ça marche, le pouvoir. Et évidemment, nous avons été amenés à interroger doublement l'école du point de vue de la violence, c'est-à-dire l'école comme espace violentogène, à savoir l'école de la violence, l'école violente, mais aussi concevoir que les violences à l'école, notamment des élèves face à l'institution, face aux enseignants, etc., correspondent à la réponse que les acteurs font face à cette violence instituée.
Juste un mot sur la violence, c'est l'idée que je reprendrai un peu plus tard, mais que la violence est au cœur même de l'institution scolaire. Quand l'actualité, les médias nous présentent régulièrement des cas de violence à l'école, qui sont effectivement parfois existantes, des raquettes aux injures, etc., il faut penser que l'institution scolaire elle-même est violentogène, ne serait-ce que parce qu'elle impose parce qu'elle impose une véritable inégalité. Il y a des inégalités sociales, culturelles, économiques et sexuelles à l'école que l'école en tant qu'institution nie, d'une part, et d'autre part parce que la relation pédagogique elle-même est une relation forcément violente. Et sur ce point, j'y reviendrai dans la deuxième partie.
Alors, j'aborde un autre point dans cette démarrage d'une réflexion sur l'école comme lieu de pouvoir et comme lieu de désir ou de non-désir. Il faut aussi remarquer que l'école est aussi le lieu de la souffrance. Évidemment, de la souffrance des élèves, mais je viendrai un peu plus tard, de la souffrance aussi des enseignants. Souffrance psychique, psychologique, qui, en tant que telle, accompagne probablement tout processus de socialisation. Parce que le fait même d'éduquer une jeune génération, dans l'esprit par exemple de Durkheim, c'est forcément mettre à distance les pulsions comme étant, comme relevant des frontières de l'intime et des histoires singulières. C'est-à-dire que les pulsions ne sont pas collectivisables et donc, a priori, elles n'ont pas lieu d'être dans l'espace de la classe et dans l'interaction continue, habituelle de l'espace scolaire. Parce que le corps est socialisé, il est, vous l'avez peut-être entendu dans ce que je disais précédemment, parce que le corps est socialisé, il est donc capturé par la règle, l'émotion est généralement évacuée de ce lieu comme corps étranger à la relation et à l'institution du pouvoir. À cette violence qui, une caractéristique mineure des formes prises par la violence de l'école, y compris dans son histoire, à cette violence de l'école répond celle des enseignés. Les déviances scolaires, les chahuts, sont évidemment du ressort des réponses des acteurs à une institution de fait pathogène, parce que institution du pouvoir. Et je vais rapidement aborder la question de la souffrance des enseignants dans leur activité au quotidien.